Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous avec ma femme d'aujourd'hui. C'est vraiment de montagne russe émotionnelle que nous allons parler. Les hauts, les bas, mais ensuite les hauts à nouveau. Eh bien, les détails, sans plus tarder, on y va.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Tissem Benadim, bonjour.
Bonjour, Lala Yasmine.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Je crois que c'est la Tissem. Lala Salik.
Je vais très bien, alhamdoulilah.
Ben, merci beaucoup. Lala Tissem, toi tu es directrice d'un centre de radiologie spécial, rattaché à un centre d'oncologie. Y'a que c'est ça.
C'est ça.
Est-ce que toi, à titre personnel, tu as déjà été confrontée à ça? On sait que malheureusement, pratiquement aucune famille marocaine n'est épargnée par l'existence d'une maladie cancéreuse. Et toi, à titre personnel, est-ce que tu as déjà eu à faire une annonce toi-même à un proche ou à une proche?
Oui, l'année dernière pour mon mari.
C'est toi qui as fait l'annonce?
Marie qui a eu, oui, c'est moi qui ai fait l'annonce.
Ah oui.
Parce que les médecins, le connaissant, ils étaient un peu hésitants, ils ne savaient pas comment l'annoncer, parce qu'ils le voient, ils me connaissent très bien, ils connaissent mon mari, donc c'était un peu compliqué. Et moi, j'ai fait l'annonce avec mes mots, doucement, en le préparant, et ça a été, ça a été. C'est vrai qu'il était choqué, hein, c'est normal. On ne peut pas annoncer à quelqu'un qu'il a un cancer fulgurant et qu'il va le prendre avec le sourire. Mais en fin de compte, c'est passé et il a accepté. Je l'ai accompagné depuis une année.
Et comment il va?
Sans problème. Très bien, alhamdoulilah.
Alhamdoulilah. Et toi, comment ça va par rapport à ça? Bien. Justement, d'abord personne ne nous écoute. Goul, dis-moi comment tu te sens. Dis-moi vraiment comment tu te sens. Même dès que la charge émotionnelle, finalement, c'était à toi de lui dire.
Oui,
Hadiham, pendant un an d'accompagnement, entre l'annonce, l'accompagnement, etc. J'imagine le soutien moral. J'imagine que tu donnes l'apparence d'être un roc, Lala Tissem.
Oui, en apparence.
En apparence.
Oui, il fallait que je sois forte et pour lui et pour moi. Et pour qu'il puisse tenir, pour qu'il puisse avancer, pour qu'il puisse se soigner. Parce que l'accompagnement moral est très important en cas de, dans ces cas-là. C'est très difficile et c'est vrai qu'on s'occupe beaucoup du malade et qu'on oublie celui qui soigne le malade.
Justement, on s'occupe beaucoup du malade, mais on oublie l'accompagnant, l'aidant.
Voilà. Mais je crois que c'est mon expérience aussi dans le travail qui m'a aidée énormément.
Ouais.
Parce que je vois que quand on a un malade et on sait que l'annonce va être difficile et tout, et avec ça, on va sourire, on va l'embrasser, on va le prendre dans les bras, on va lui dire « tu verras, ça ira mieux ». Et bien ça, on apprend à le faire. On vit avec tous les jours. Et bien, on le pratique aussi chez soi. Et les personnes qui sont malades, quand ils voient que la personne en face est forte, qu'elle garde le sourire, qu'elle garde espoir, ben, ils font de même.
Bien sûr, bien sûr.
Pour moi, ils font de même.
Oui, oui. Alors,
Lala Tissem... Moi, c'est pas fini, hein, parce que...
Dis-moi, c'est pas fini, vas-y.
C'est pas fini parce que c'est mon père qui est malade maintenant.
D'accord, ok. Tu le prends avec le sourire, Lala Tissem.
Ben, il faut, je me dis, imtihan andallah, et puis, adviendra ce qui adviendra, on n'y peut rien. Il est malade, on va faire de notre mieux pour qu'il aille mieux, pour qu'il soit bien soigné, mais c'est comme ça.
Exact. Et ton mari, il va mieux? Il va mieux, ton mari?
Alhamdoulilah. Très bien.
Oui.
Très, très bien. Alhamdoulilah.
Vous êtes tous les deux plus amoureux depuis? Vous vous aimez différemment?
On s'aime différemment. Différemment. Il y a autre chose. Il y a la confiance. Il y a une grande confiance qui s'est installée. Il y avait la confiance avant. Mais elle s'est renforcée après la maladie. je ne vais pas dire la reconnaissance. Peut-être que moi, je suis reconnaissante à cette maladie qui nous a rapprochés encore plus.
Tout va bien, une période. C'est normal, tu vas me dire.
Oui. On s'était éloignés, il y a eu un divorce, un retour.
Ah oui, d'accord.
Beaucoup de choses, mais je crois que la maladie...
Donc, vous aviez divorcé longtemps avant l'annonce de la maladie?
Oui, on avait divorcé, on est restés séparés pendant 5 ans, d'accord. On a repris, et quelques temps après, il a attrapé la maladie.
Alors,
je vous dis, Rabbi m'a-t-il irtaha haja ghir hakak.
Ghir hakak. Rabbi rdek lih.
Urdoudia aussi.
Pardon? Urdoulik, oui. Oui, parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est, je l'ai vu du point de vue de la vulnérabilité, en fait, dans laquelle il était. Rdek lih, dans le sens où c'est peut-être lui qui avait le plus besoin de toi à ce moment-là, plus que toi, en fait. Parce que, justement, la santé, rentou, comme on dit.
Oui, c'est sûr, mais je crois que quand on se marie avec quelqu'un et qu'on décide de continuer et de vivre avec cette personne, c'est pour le meilleur et pour le pire, comme on dit.
Bien sûr.
Et donc, le meilleur, c'est les bons moments, c'est notre jeunesse, c'est tout ce qu'on a fait, c'est les voyages, c'est beaucoup de choses. Mais il y a aussi le pire, hein, il y a la maladie. Aujourd'hui, il est tombé malade, peut-être que demain, moi, je serai malade. Et donc, c'est un cycle de la vie. Et même s'il n'y a pas la maladie, il y aura la vieillesse.
Oui, absolument.
Donc, absolument. Dans un couple, c'est ça qui compte le plus, hein, à part être amoureux au tout début, s'amuser, afficher le bonheur. Il y a une autre sorte de bonheur.
De bonheur, c'est s'accompagner l'un et l'autre, en fait.
Voilà.
Ouais.
Se soutenir.
Lala Ibtissam, à ton avis, on arrive à cette maturité-là dans le couple vers quel âge, en fait? Vers quel âge c'est pas du tout une réflexion de la vingtaine ni de la trentaine. Diel, c'est le compagnon de la vie. C'est, voilà, on s'aime différemment. C'est peut-être un amour qui est encore plus fort, parce que c'est l'amour d'Yel Lechera, comme on dit. Mais d'Yel, voilà. D'Yel, je peux compter sur toi et tu peux compter sur moi. Tu penses que tu es arrivé à cette prise de conscience vers quel âge?
Après la cinquantaine. Hein.
Ah oui?
Déjà, oui, parce que je ne me suis pas mariée très jeune.
D'accord.
Tous les deux, on ne s'est pas mariés très jeune. Et on était pris par la vie. Mais après, quand on a repris ensemble, et je me suis posé beaucoup de questions sur mon avenir, sur ma vie avec et sans lui. Et j'ai compris que j'avais besoin de lui, j'avais besoin de ce compagnon pour mes vieux jours, parce qu'après les cinquantaines, bon, pour ma part, hein, je parle pour moi,
oui.
On commence à penser aussi à l'après. Il y a une retraite qui arrive, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Comment serait ma vie sans lui? Mais c'est les expériences aussi de la vie qui vont faire qu'on va se poser cette question ou pas. Je ne sais pas. Pour mon cas, c'est venu après la cinquantaine.
Après la cinquantaine. Tu étais déjà divorcée d'Ixéet, déjà séparée de lui.
J'étais séparée de lui.
Ouais.
Justement, c'est parmi les raisons pour lesquelles j'ai repris avec lui.
Ah, ok, et il le sait?
En me disant, il le sait, on en a parlé. En me disant que pour mes vieux jours, je voudrais quelqu'un avec moi et je ne trouverais pas mieux que lui pour être avec moi.
Oui, ça c'est beau, absolument. est-ce que tu penses que votre séparation est aussi due au fait que vous êtes mariés tard? C'est-à-dire, vous avez très longtemps vécu en célibataire dans votre tête aussi, et que c'est compliqué finalement, je pense, de cohabiter avec quelqu'un, de se faire une vie quand on a tellement longtemps vécu seul.
Oui, il y a un peu de ça aussi. Il y a un peu de ça aussi. Parce que, comme on dit, on devient célibataire endurci, on a cette petite habitude, on a un train de vie qui nous convient, mais qui ne convient pas forcément à l'autre. Et mettez deux personnes comme ça dans le même dans le même foyer et ça peut clasher facilement. Mm. Donc, chacun, c'est une épreuve de force, c'est beaucoup de choses, c'est une divergence dans les façons de voir les choses qui mène à un certain moment à un divorce parce qu'on se dit vaut mieux être séparé que rester comme ça.
Oui.
Mais au fait, quand on y réfléchit, mais moi, ça m'est arrivé des années après, on se dit, on ne peut pas s'accrocher comme ça à des idées ou à des habitudes au détriment d'une relation, mmh. voilà. Mmh.
D'un compagnon. En fait, c'est... Ouais, absolument. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, on constate beaucoup de divorces, c'est qu'on s'accroche à des idées, à des habitudes, et non pas à la personne, en fait. La liberté personnelle est devenue trop importante. Elle prend énormément de place au détriment de la construction à deux. Et toi, tu as eu cette prise de conscience, en fait, de ça. Attention, Yekmen, Radiafatrekhadi.
Oui, effectivement. Effectivement.
Ouais. Mais je pense que quand tu as dû te séparer la première fois, l'entourage a dû trouver ça normal. Mais oui, c'est une célibataire endurcie. Elle a l'habitude d'être seule.
Pour mon entourage, oui, quelque part, c'était normal parce que je donne l'image de cette femme forte qui y a toujours compté sur elle-même, qui mène les choses par elle-même, qui a toujours géré des hommes. Donc, oui, avec ou sans homme, elle est bien. Mm. C'est l'idée que je donnais.
Uh-huh.
C'est pas vrai, hein. Entre nous, c'était pas vrai.
Okay.
Parce qu'il y a eu une embarras. Il y a un manque. Il y a un manque. Je suis une femme aussi. J'ai des besoins. J'ai des sentiments. Pour les gens, c'était facile, mais pour moi, c'était un grand échec.
De ne pas te marier tôt,
un échec.
De te marier, de ne pas avoir rencontré une personne. Qu'est-ce qui était un échec?
Non, c'était le divorce.
Le divorce qui était
l'échec. Mm. Non, ne pas rencontrer, c'était bien voulu. Ça veut dire que moi, je voulais faire ma carrière avant toute chose.
D'accord.
Donc le mariage, c'était délégué vraiment au deuxième rang.
Ok, donc la célibataire en Turquie, ça c'était assumé.
Ah oui.
Ça c'était assumé. Complètement.
Ok. Complètement.
Par contre, ce qui était compliqué, c'est ensuite le divorce.
C'est ce sentiment d'échec. C'est bizarre,
oui,
mais c'est un sentiment d'échec. On se dit, j'ai pas assez fait pour que ça marche.
Mm. Ouais. J'ai l'impression que tu étais triste à ce moment-là.
Je suis passée par toutes les phases. Hein. Au début, c'était la joie, waouh, ça y est, je suis libre. Après, on commence à faire son deuil en se disant qu'est-ce que je vais devenir. Après, on s'habitue et on reprend sa vie normalement. Mais toutes les phases, je les ai vécues sans problème.
Pardon. Mais ensuite, justement, quand on décide de revenir, alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'enfant dans l'histoire, dans l'équation.
Non, il n'y en a pas eu.
Il n'y en a pas eu. Ça, c'était un choix aussi ?
Il n'y en a pas eu. Non, du tout. On a tout essayé, ça n'a pas marché. Puis, alhamdoulilah.
Justement. Tu le vis comment, ça ? Le fait de ne pas avoir d'enfant. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en paix avec ça ? Parce que la société, la société ne nous laisse pas tranquilles.
C'est vrai, la société ne nous laisse pas tranquilles, mais maintenant... je me dis tant mieux comme ça. C'est vrai qu'à un certain moment c'était très difficile. J'avais tout essayé, je voulais absolument avoir un enfant, j'adore les enfants, mais maintenant je me dis non, Rabbi Matanish, donc ça y est, ok, hein. Il sait pourquoi.
Exactement.
Il a fait raison, il sait pourquoi.
Afti,
bon, j'ai mes neveux et nièces,
ouais.
Et j'en suis très contente, ça y est.
Afti, la petite sœur.
Aussi les enfants.
Toutes les femmes que j'ai rencontrées qui n'ont pas eu d'enfants, bon, après l'avoir mal vécu une période, arrivées à un certain âge, elles me disent en fait, mais finalement, on n'aurait pas pu vivre notre vie avec des enfants, en fait. Finalement, si on n'en a pas eu, c'est pour une raison. Et c'est tant mieux comme ça.
Effectivement.
Le message, ça serait bien aussi peut-être de l'apporter comme un baume au cœur à toutes ces femmes et ces hommes qui nous écoutent, qui sont aujourd'hui peut-être à la recherche d'un enfant, de vouloir tomber enceinte, de vouloir concevoir, et c'est compliqué. La douleur finit par passer, yek.
Ah oui, complètement. Elle passe et après, on est en paix avec soi-même. Et c'est des années après qu'on réalise que si Dieu nous a pas donné d'enfant, parce que ça, c'est quelque part, il y avait des raisons.
Ah.
On les comprend, mais des années après. Mais on peut remplacer les enfants, on peut s'occuper d'orphelins, on peut s'occuper des gens de la famille, on peut s'occuper des gens, des enfants pauvres. Il y a un tas de choses à faire. Il n'y a pas que ces enfants. Tous les enfants du monde sont nos enfants, quelque part. Et ça, c'est apaisant. Quelque part, c'est apaisant.
Ouais,
moi,
ouais.
Dans mon cas, ça y est, j'adore les enfants, c'est vrai, mais aucun regret de ne pas avoir enfanté.
C'était pas la petite Sam d'il y a quelques années, ça?
Du tout. Du tout. C'est simple, il y a quelques années, français tête passe, elle voulait travailler, elle voulait gagner de l'argent, elle voulait réussir, elle voulait avoir des enfants, elle voulait avoir beaucoup de choses. La petite Sam d'aujourd'hui est en paix avec elle-même. Et je me dis, ce que j'ai eu, je l'ai mérité. Ça ne veut pas dire que je ne continue pas à me battre et à avancer, mais c'est plus maîtrisé, quelque part.
C'est-à-dire que tu ne veux pas tout. Tu ne veux plus tout.
Elle s'est calmée.
Tu ne veux plus
non,
en fait.
Je ne veux plus tout. Ne veux plus tout.
Ouais.
Non, ça y est. Ça y est. Je crois que c'est l'âge aussi. Quelque part, on s'assagit avec l'âge.
Ouais. On relativise, en fait.
Oui.
On relativise par rapport à...
Effectivement.
Qu'est-ce que ça veut dire, tout vouloir? Et qu'est-ce que cela implique de tout vouloir?
Justement.
Ça implique beaucoup de choses. Et c'est surtout, en fait, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais quand on dit... Le contexte dit, elle voulait tout, je voulais tout, c'est souvent orienté vers l'extérieur. Ce n'est pas orienté vers l'intérieur. Que ce soit l'intérieur de soi ou l'intérieur de son foyer. C'est surtout vers l'extérieur. On va chercher avec le tout dehors. Après, on revient vers l'intérieur. On commence à chercher plus de sérénité, etc., à l'intérieur de soi et à l'intérieur de son foyer.
C'est comme quand on court et qu'on est essoufflé, et au bout d'un moment, on s'arrête et on respire, et on se dit « Ouah, je crois que c'est vaut mieux que je marche doucement. »
Ouais.
C'est
ça, c'est super bien dit. Exactement. Ouais. Bon, Barkaliem Jiri, d'abord, je vais marcher, et peut-être que je ferai la même distance, ou peut-être moins, mais ouais.
Mais j'avancerai quand même.
Exactement. Ça, j'aime beaucoup comment c'est dit. Lala Ibtissam, justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait encore te lever le matin?
Je suis quelqu'un de très passionné. J'adore ce que je fais. J'aime ce contact avec les gens. J'aime me rendre utile. J'aime sourire le matin en voyant les patients arriver et dire bonjour à ces gens-là et leur insuffler ne serait-ce qu'une seconde un peu d'espoir.
Mais ça, c'est l'extérieur, l'intérieur, dit Elk. Parce que tu m'as dit, il y a beaucoup de choses qui ont changé.
Comme je t'ai dit, je suis en paix avec moi-même. Ça y est, je ne cours plus après le matériel. Je me contente de ce que j'ai et de vivre ce moment et de savourer ce moment avec mes proches, avec mes parents, avec mon mari, avec mes frères et sœurs. Et pour moi, ça, j'aurais dû le comprendre il y a très longtemps. Mais bon, maintenant que je l'ai compris,
tu le lâches plus.
Je suis bien. J'ai un équilibre et je m'y accroche.
Absolument. Quand tu dis j'aurais dû le comprendre un peu plus longtemps. Bien avant. Tu as laissé passer des choses, tu n'as pas vécu certaines choses. Qu'est-ce qui te fait dire j'aurais dû le comprendre avant?
Non, j'ai vécu des choses, mais je ne m'arrêtais pas. Ça veut dire que je ne prenais pas le temps de savourer certains moments. Je les vivais intensément, mais je repartais vers une autre chose.
Ah.
C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, c'est courir. Ça veut dire, c'est comme si j'avais hâte de tout faire, et en vitesse, et sans arrêt. Mmh. Et donc, quelque part, on ne prend pas le temps de savourer un moment, ne serait-ce que simple, un thé avec des amis, une petite soirée en famille. Tout ça, il fallait le faire très vite, parce que j'étais pressée par le temps, parce qu'il fallait que je réalise autre chose, parce qu'il fallait que Petit Sam montre à tout le monde qu'elle peut faire des choses. Mmh. Et en fait, la vie, c'est pas ça.
Et tu penses que ça vient d'où, tout ça?
Je ne sais pas. Peut-être c'est l'éducation, c'est vouloir montrer à tout le monde qu'on peut réussir et qu'on est capable de réussir, même si on n'a pas tous les moyens. Mmh. On est capable de le faire. Moi, je suis d'une génération où on nous poussait à faire des études, à travailler, il fallait tout faire en même temps. On ne nous demandait pas notre avis. Il fallait qu'on réussisse par n'importe quel moyen. Et cette génération, c'était plus marie-toi et reste à la maison, mais plutôt va faire des études, va travailler, montre que de quoi tu es capable. Et je crois que j'étais tellement dedans à vouloir montrer à mon père, à ma mère, à ma famille, à mon entourage, que j'étais capable, que j'ai quelque part oublié, qui s'aime, la paix, la sérénité.
Ben oui, on peut pas tout faire en même temps, en fait. C'est pas possible. Voilà. C'est que il a fallu nourrir tout ça pour pouvoir ensuite te recentrer vers toi. Mais tu n'aurais pas pu peut-être te recentrer sur toi avant sans avoir fait ça ou sans avoir fait un travail sur toi. Est-ce que ça tu l'as déjà fait? Justement, travailler avec un coach, Est-ce que tu as déjà fait une chose pareille?
Avec un coach, non. Mais j'ai eu une grande épreuve de la vie il y a quelques années. Mmh. C'est ça qui a tout remis en question. Et le travail, je l'ai fait avec moi-même. J'ai beaucoup lu, je me suis recentrée sur moi-même. J'ai arrêté de travailler pendant une année où j'ai réfléchi à ma situation, où je me suis apaisée.
D'accord.
Je commençais à me dire, mmh. Si je rate les hadl haja, c'est que تبغيتيها لي انا قبلها والحمد لله ربي عنده كل خير et ma vie a changé j'ai changé de métier, j'ai changé beaucoup de choses et je suis très heureuse aujourd'hui et ça tout ça grâce à Dieu alhamdoulillah.
Lala Ibtissam Ben Adem اسمع على مسمى.
Merci beaucoup.
Merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.